On dit que le Mexique est irrésistible, qu'il vous éclate au visage, qu'il est coloré comme une pastèque trop mûre. On dit aussi qu'il est chaleureux comme un rire qui dévoilerait des dents étincelantes, des dents blanches, pourquoi pas sur une moustache noire. En tout cas, le Mexique, c'est explosif, c'est un peu comme le piment, c'est gay comme de la musique de mariachis, comme des trompes ou des conques précolombiennes. Ceux qui ont séjourné au Mexique sont comme des frères. Et c'est ce que dit le cinéaste, oh, c'est certainement un de mes cinéastes préférés, j'adore le noir et blanc, vous connaissez peut-être Sergei Eisenstein, qui a fait un film qui s'appelle Viva Mexico. Il disait justement que ceux qui ont séjourné dans ce pays, eh bien, sont comme des frères parce qu'ils ont contracté une maladie, eh bien oui, la maladie du Mexique. C'est un pays qui est très vaste, qui est en tout cas surprenant. Là, je pensais à Eisenstein qui a fait des images somptueuses où l'on voit ces ambiances, ces longues plaines, ces sites archéologiques. Et on n'a jamais véritablement fini de faire le tour de ce pays. Moi, je dois dire que ça fait plus de 20 ans que j'y vais. Et je trouve qu'il y a encore des endroits qui sont non seulement méconnus, mais surtout on a l'impression d'oublier le temps pour pouvoir mieux le savourer. Et j'ai envie de vous parler de saveurs aujourd'hui. On va d'abord un peu flâner le soir, tiens par exemple à l'heure des premières fraîcheurs, à l'heure où on sort les chaises sur les pas de porte, par exemple sur le Zocalo, qui est la place principale de toutes les petites villes du Mexique, au cœur de chacune de ces villes qui ont un côté colonial. Et je vous vois très bien en train de piocher distraitement dans un petit cornet de pépins de courge, et ça gratouille un peu, ça chatouille la langue, des fois ça coince un peu au fond de la gorge. Vous êtes en train d'écouter des musiciens qui sont installés sous le kiosque traditionnel avec ses colonnes, avec ce côté un peu début du siècle ou fin du siècle dernier. Et puis, vous venez d'abandonner, pourquoi pas, vos chaussures, vos souliers poussiéreux, et un petit cireur là qui est en train de s'en occuper. Ça brille, il y a un crissement assez curieux juste au moment où il passe derrière le talon avec son bout de tissu, un sifflement qui vous dit qu'on est arrivé à la perfection. Ça brille, c'est beau. Tiens, ces petites pépites dans votre bouche sont bien étranges, elles sont bien bonnes. La courge, ça fait penser qu'on est effectivement dans un pays où il y a énormément de produits que nous ne connaissions pas avant le XVIe siècle. J'ai envie de vous mettre un peu l'eau à la bouche, parler peut-être un peu de cette terre métisse, bien sûr, de cette terre indienne, mais tout à l'heure, nous glisserons dans ce qu'est véritablement la cuisine mexicaine. Alors, vous savez où nous sommes, c'est entre l'Atlantique et le Pacifique. Alors, moi, je vois le Mexique, chaque fois que je regarde la carte du monde, je me dis que c'est une corne d'abondance. Une corne qui est un peu à califourchon sur ce fabuleux tropique du cancer. Quand on dit tropique, on pense déjà à des choses chaleureuses, un peu plus piquantes qu'à l'ordinaire, un peu plus savoureuses. Et puis vous avez ces volcans qui sont couronnés de neige. Il y a des jungles aussi tout à fait impénétrables. Il y a des déserts. Des déserts qui sont hérissés de cactus. Je dis cactus, je pense déjà à les manger. C'est curieux, non? Et au Mexique, ça se mange. Un peu plus loin, vous aurez des plages paradisiaques. Tiens, je viens de voir tomber une noix de coco. Vous voyez qu'on commence déjà à saliver un peu. Et tous ces paysages se retrouvent en mosaïque dans un pays qui peut tout nous offrir. Alors, quand on pense aussi à la façon de communiquer, eh bien, c'est assez étrange de voir à quel point l'espagnol, qui est d'ailleurs ici extrêmement chantant, qui a quelque chose de nonchalant, il y a une sorte de douceur. Et puis autour, comme s'il y avait une sorte de ronde comme cela, vous avez quelque chose comme 55 ou 56 ethnies indiennes qui représentent quand même un bon dixième de la population. Alors, regardez ces gens, ils sont jeunes, ils sont remuants. Il y a près de 90 millions d'habitants aujourd'hui au Mexique. Et bien pour le reste, lorsque j'ai parlé de ces 10% d'Indiens, le reste est d'abord métis, mais c'est un mélange comme ça d'un héritage qui est à la fois physique, bien sûr, mais aussi culturel, quand on évoque l'Espagne, les Espagnols. Et puis il y a ces peuples précolombiens qui ont des noms, quand on les prononce, on s'amuse souvent avec ces noms, ils claquent un peu comme des castagnettes. Essayez d'imaginer les Chichimèques, les Zapotèques, les Totonacs, les Mixtecs. C'est un peu comme cela que qu'on voit que tout se mélange. Quand je parlais de métissage, il y a aussi la religion, bien sûr, il y a cette religion catholique très officielle, mais il y a toujours par-dessus, comme cela, une sorte de teinte étrange où vous avez les superstitions, vous avez toutes ces coutumes qui sont héritées de la nuit des temps, de ce temps, de ces temps précolombiens. Et bien sûr, quand on songe aussi au visage de cette religion au Mexique, on admire immédiatement cette Vierge de Guadeloupe qui est devenue le symbole du pays. Une Vierge qui est incroyablement vénérée. Et elle est d'ailleurs brune, un peu comme les Indiens que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, quand on pense à cette terre, quand on pense aussi à sa saveur, je dirais qu'il y a d'abord la fête. La fête que vous retrouvez dans tous les villages, la fête d'un saint, le saint patron, bien sûr. Et quand on parle de fiesta, on imagine tout de suite des danseurs emplumés, on les voit tournoyer comme cela à la mode aztèque. Vous les imaginez sur le parvis d'une église. Et on pense aussi aux charros. Vous savez ce que c'est que les charros? Eh bien, ce sont ces cavaliers un peu trop virils, comme ça, qui se tiennent droit sur leurs chevaux avec ces chapeaux, avec des larges bords. Et naturellement, ils sont là pour entretenir cette tradition qui est bien mexicaine, c'est-à-dire celle du rodéo. Enfin, encore que le rodéo à la mexicaine soit bien particulier. Tiens, par exemple, dans les charreadas, on renverse les vachettes en les attrapant par la queue et on essaye de les faire glisser et de les faire tomber. Ça ne tient pas du tout du rodéo à la nord-américaine. Non, non, là, il y a quelque chose d'un peu plus chaleureux, d'un peu plus latino, d'un peu plus espagnol aussi. Et si on commence à remonter dans l'histoire en continuant cette mosaïque à la fois de couleurs et de saveurs, eh bien, on peut carrément remonter 25 siècles en arrière. Et quand on passe d'un site archéologique à un autre site, on revoit ainsi tout le cours de cette histoire précolombienne. Alors, il y a d'abord ces têtes monumentales qui ont été hérissées par les Olmecs dans la région de Veracruz. Ce sont les têtes qui arrivent jusqu'à 2,50 m de hauteur, qui sont énormes, mais qui ont surtout cet étrange regard, cette bouche un peu dédaigneuse. Ah, vous pouvez par exemple évoquer la pyramide Totonac d'El Tarim avec ses 365 niches. Voilà une image perdue dans la jungle que chacun d'entre nous a pu apercevoir un jour, en tout cas en illustration. Ça donne tout de suite une atmosphère un peu découverte du 19e. Ou alors une cité zapothèque, puisque on évoquait ces noms de civilisations étranges. Là, ce serait du côté de Monte Albán, en plein milieu à l'endroit où la corne d'abondance commence à se resserrer. Là, du côté de Oaxaca. Et puis vous avez Teotihuacan. Teotihuacan, ça fait rêver tout le monde. Teotihuacan, c'est d'abord cette terre bleue de l'altitude qui correspond à celle de Mexico, c'est-à-dire 2000 et quelques mètres. Teotihuacan, c'est d'abord la pyramide du soleil et de la lune. Et puis en même temps, on pourrait évoquer au contraire la chaleur, l'infini de ces cumulus qui roulent dans le ciel lorsqu'on évoque les Mayas de cette péninsule qui avance comme cela du côté de Cuba, cette péninsule du Yucatan. Vous avez bien sûr d'autres noms qui font rêver. Je pense à Palenque, à Chichen Itza, à Tulum. Tulum, perché sur cette falaise en-dessus de la mer des Caraïbes. Et puis naturellement, la dernière civilisation, celle des Aztèques, avec cette capitale absolument éblouissante. Pensez à Tenochtitlan. Tenochtitlan qui a complètement métamorphosé, enfin transformé le regard des Espagnols, parce que c'était la première fois que, je disais ébloui, c'est bien ça, lorsqu'ils ont débarqué en 1519, où ils ont été peut-être un peu horrifiés par les cultes sanglants qu'on y célébrait, mais c'est cette ville capitale qui, 2 ans plus tard, va devenir, à cause de ces barbus à peau blanche, qui étaient venus d'au-delà des mers, va devenir une ruine fumante au milieu d'un lac infini, ce superbe lac de Mexico, Tenochtitlan, qui rejoignait les rives où grimpaient petit à petit ces volcans et ces hauts sommets complètement enneigés ou simplement recouverts de pins, ces pins Montezuma avec ces grandes aiguilles toutes fines. Il y a déjà des odeurs, il y a déjà une atmosphère. Je viens de parler de marécages, je viens de parler de ce lac. On peut cultiver dans les chinampas ces étranges ces étranges jardins flottants que l'on évoque encore aujourd'hui à Xochimilco, dans le sud de la ville. Et c'est là que le dernier empereur aztèque, Cuauhtémoc, va être arrêté et va être ensuite exécuté. Et bien, c'est aussi à cette époque que l'Europe va apporter le blé d'abord, je pense au cheval, on l'évoquait tout à l'heure, et puis il y aura en échange, alors très curieusement, l'arrivée chez nous du cacao, de la tomate, du maïs, et puis surtout de l'argent. Cet argent qui sort maintenant des grandes mines de la région de Guanajuato ou de Taxco. Taxco qui a repris un peu du poil de la bête il y a quelques années, puisqu'elle est maintenant carrément composée de milliers de petites boutiques où l'on vous vend des bijoux. Et cet argent, ces matériaux curieux, ces végétaux, ces fruits, tout cela va véritablement être petit à petit assimilé par l'Europe. Et c'est aux alentours de 1821 que, finalement, au moment de l'indépendance de ce Mexique, qu'on va sonner le glas de cette vice-royauté espagnole. Alors j'aimerais que tout à l'heure nous revenions sur la capitale en avion et que devant vos yeux incrédules, vous voyez ce corset de volcans où se déroule à perte de vue ce tapis de maisons et de gratte-ciel où grouillent quelques 20 millions d'habitants. Eh bien, sur ces larges avenues, parmi les plus longues du monde, vous avez ces flots de voitures, tandis que sur le même trottoir, vous avez une indienne impassible qui propose des mangues. Des mangues avec ce parfum étrange, artistiquement découpé, sous l'œil indifférent du touriste ou éventuellement du businessman qui travaille ici, totalement indifférent.
Sacrificio del propio Quetzalcóatl. Bajó al mundo de los muertos y rescató los huesos de las gentes tentativas, y después de hacerlos moler, sangró su verga sobre ellos.
Une cuisine étrange, une cuisine de Dieu où Quetzalcoatl vient de moudre, vous savez, cette étrange métaté en forme semi-arrondie avec ce qu'on appelle la mano qui vous permet de broyer en descendant doucement. Et bien là, il broyait les os des ancêtres pour recréer la nouvelle humanité en mélangeant son propre sang à ses os. C'est un peu comme cela que l'on prépare la cuisine aujourd'hui. Et oui, parce que quand on évoque le Templo Mayor, cet endroit qui est au cœur de Mexico, là tout près de l'indienne qui vendait sa mangue bien découpée, oh, elles les servent souvent comme des fleurs, c'est-à-dire elles enlèvent la pelure de la mangue lorsqu'elle est bien mûre et puis elles vous la fichent au bout d'un bâton et elles vous la découpent en l'ouvrant petit à petit autour de l'os et vous n'aurez qu'à, de façon tout à fait particulière, glisser votre langue puis vos dents et vous n'aurez qu'à tirer sur chacun de ces pétales qui va vous donner uniquement la pulpe, la saveur bien sûr, mais surtout ce côté extrêmement crémeux du mango, le mango bien mûr. Il n'y a que quelques jours dans l'année où cette espèce de magie se produit dans votre gorge. Et là, à côté, au Templo Mayor, eh bien, vous allez retrouver ces étranges sacrifices que l'on évoquait tout à l'heure, cette cuisine, une véritable cuisine religieuse qui parfois nous trouble, où l'on mélangeait du maïs avec des produits étranges devant les dieux que les prêtres ingurgitaient ensuite. Et vous aurez, dans votre visite aussi, visité le palais de la présidence avec les fresques de Diego Rivera. Oh, il vous fera saliver aussi et il passera carrément du cacao aux cultures les plus intéressantes que les prêtres colombiens nous ont laissées, même devant la Vierge de Guadeloupe, en pénétrant dans cette immense pyramide de bois et de cuivre qu'est la basilique aujourd'hui. Il y aura des odeurs, des claquements de doigts, on préparera des biscuits qui ont cette saveur un peu étourdissante comme ça. Je dirais que si vous regardez le Mexique dans son ensemble, il y a 31 États. Et chacun possède son individualité, bien sûr. Alors, j'ai envie de partir au nord, où il y a cette route historique de l'indépendance. Vous allez égrener ces villes coloniales comme on mettrait des perles sur un collier baroque. San Miguel de Allende, Morelia, Querétaro, Dolores Hidalgo, où il y a des églises de pierre rose avec des façades qui sont ocre ou éventuellement pastel. Elles sont soulignées de fer forgé, avec des patios qui sont carrelés, avec des faïences. Vous voyez partout ça croule de bougainvillée. Et autour de Guadalajara, c'est la deuxième ville du pays, et bien là, vous aurez l'état de Jalisco, avec ce côté orgueilleux, cette espèce de berceau de la musique mariachi. Vous savez, les mariachis avec leurs costumes noirs et l'argent. Et puis, c'est l'endroit où on déguste doucement, ça glisse aussi dans le palais, c'est un peu huileux lorsqu'elle est vieillie. Ah, du tequila, c'est bien Jalisco. Et là, vous glissez jusqu'au Pacifique, à Puerto Vallarta, et vous allez retrouver la nuit de l'iguane. Cette iguane qu'on déguste de temps à autre comme un plat de luxe. Vous vous rappelez de l'histoire de John Huston, la nuit de l'iguane? Vous avez le Michoacán aussi, avec ce côté un peu macho, comme ça, avec des gens au sang très chaud, et puis ces Indiens, Tarasques. C'est Tarasque qui déploie sur le lac de Dranitzio des filets de pêche en forme de papillon. Vous auriez San Luis Potosi où on élève des taureaux, ces fabuleux taureaux de corrida. Ou alors Chihuahua qui est la patrie de Pancho Villa, où vous aurez là les fameuses bottes mexicaines. Tiens, ce cuir qui a bien une odeur. Et puis ces terres un peu vierges, ces terres de western où il y a des cowboys qui font fuir là-bas du côté des montagnes les Indiens Tarahumara qui partent devant eux et qui sont petit à petit dans ces zones refuges, dans ces grands canyons. Et à l'ouest, vous aurez, regardez, vous avez une péninsule, la péninsule de Basse-Californie qui étire ses plages désertes avec de temps à autre dans ses lagunes d'énormes baleines grises qui viennent à la fois mettre au monde leurs petits qui ensuite les caressera doucement. Et là, vous allez retrouver des cactus, ces cactus cierges qui sont beaucoup plus nombreux que les humains puisqu'on est souvent en plein désert. Et là, vous allez vous régaler. Tiens, j'ai envie de vous préparer sur un feu de... Vous savez que l'intérieur du cactus est un peu comme le bois, ça ressemble à une éponge trouée assez grossière. Eh bien, lorsque vous utilisez cela pour faire un feu et que vous déposez simplement quelques parties métalliques par-dessus, pourquoi pas, regardez, elle est au départ un peu orange et bleu, sa couleur va changer, c'est une langouste, ou alors du thon, ou alors de l'espadon qu'on vient de pêcher là à quelques mètres. Ah, il y a des couleurs aussi au Mexique. J'évoquerai peut-être le côté Caraïbe. Caraïbe, ça y est, vous avez la tête qui vient de tourner au bleu turquoise. C'est un endroit très fréquenté, bien sûr. Il y a la route touristique qui mène par le Yucatan, bien sûr, en passant d'abord, en descendant doucement sur Puebla, qui est célèbre pour ses couvents et pour ses nonnes, qui d'ailleurs inventèrent un nombre incroyable de spécialités culinaires. Et vous avez Oaxaca, qui est au cœur du Mexique indien. Et là, immédiatement, on pense à ces marchés zapothèques ou mixtèques, avec des produits posées en pyramide et des couleurs fantastiques. Ou alors San Cristobal, beaucoup plus au sud, avec des villages qui abritent les Indiens Tzotzil, qui sont un peu farouches, avec des fêtes incroyablement hautes en couleurs, avec une joie débordante, et toujours ces petits marchés. Et puis, vous pourriez faire la côte, éventuellement, par Acapulco, par Huatulco, avec les plages du Pacifique. On est nombreux à y aller, c'est vrai, comme vacanciers, mais moi, je préfère m'attarder dans le Yucatan pour voir ces temples qui sont enfouis dans la jungle, ou alors carrément un peu en dessous de Cancun, ou du côté de Cozumel, ou d'Isla Mujeres, où là, vous vous laissez baigner dans ces eaux turquoises de la mer des Caraïbes. Eh bien, quand on parle de ce Mexique, il faut comprendre, comme je l'évoquais pour les produits qui nous sont arrivés et qui sont partis de chez nous pour petit à petit se répandre sur toute l'Amérique, c'est une sorte de mariage. Un mariage entre deux mondes. Et chez nous, eh bien, on résume malheureusement trop souvent la cuisine mexicaine. Bon, tout le monde dit chile con carne. C'est un peu à pleurer parce que le chile con carne est bien américain, mais pas mexicain. Et le côté Tex-Mex, je vous dirais que c'est représentatif uniquement du sud des États-Unis où sont arrivés quelques millions de Chicanos, c'est-à-dire ces gens qui ont émigré souvent clandestinement en passant le Rio Grande et qui se sont installés, je pense à ces Mexicains qui vivent de l'autre côté et qui par influence on a même chez nous des renseignements, enfin on trouve facilement des petits bistrots ou des restaurants avec une enseigne mexicaine où on vous propose tout de même on sacrifie un peu à la mode pour satisfaire les clients ces fameux plats Tex-Mex et en l'occurrence le chili con carne. Bon, si vous êtes en mal d'évasion, d'accord, vous serez trompé de quelques milliers de kilomètres, mais ça n'est pas grave. Mais on trouve aussi malheureusement trop souvent des simples tacos ou alors des quesadillas avec du fromage à l'intérieur. Ce sont des spécialités qui sont effectivement très populaires, mais la cuisine locale, attention, elle a bien autre chose à vous offrir. Et quand on pense par exemple à tous ces moles, les moles ce sont ces sauces, on va essayer de les analyser un peu. Il y a par exemple de la viande avec du pibil ou alors du ceviche, ces poissons qui sont cuits carrément avec un filet de citron, c'est-à-dire cru bien sûr, et toutes sortes de traditions qui ont été héritées de ce passé précolombien. Et alors là carrément je peux vous dire que c'est pas les Texans qui vont inventer tout cela. Alors, les premiers habitants du Mexique, vous le savez peut-être, sont arrivés simplement d'Asie par le détroit de Bering, et c'était des chasseurs tout à fait remarquables. Ils vont s'installer sur une terre qui est extrêmement riche en gibier et énormément. L'Amérique, c'est vraiment l'endroit des plantes sauvages. Et dès le sixième millénaire, à peu près avant notre ère, eh bien, on voit l'agriculture qui commence à faire son apparition. Et on va domestiquer des espèces tout à fait étranges. Je pense bien sûr à l'avocat, à la courge aussi, aux haricots et au maïs. Là, on a carrément les quatre premières choses à cultiver. Et c'est précisément, après quelques problèmes de guerre, que les peuples vont quand même se rendre compte que ces produits sont finalement universels pour eux. J'entends par là même, malgré les différences, qu'on soit en fait chez les Toltecs, qu'on soit chez les Mayas ou les Aztèques, eh bien, on retrouve partout le maïs. Et c'est vraiment ça va devenir l'unité, la base de l'alimentation, je dirais même le symbole de la vie chez tout le monde. Et le symbole d'une création aussi chez les Toltecs, qui prétendaient que leur roi, on vient d'entendre la chanson tout à l'heure à propos de Quetzalcoatl, eh bien, il avait justement créé l'humanité à partir d'un grain de maïs qui avait été dérobé aux fourmis. Et puis ensuite, il s'était occupé justement des os des ancêtres de la création précédente pour refaire l'humanité. Mais d'abord un grain de maïs que ces petites fourmis vont chercher dans les profondeurs de la terre. Et puis chez les Mayas, les dieux, eh bien, ils s'étaient repris à trois fois pour façonner, si vous voulez, pour recréer véritablement l'homme. Alors d'abord, il y a eu la glaise, ensuite il y aura le bois, et bien sûr, tout cela ne résiste pas. Alors finalement, on va choisir une fois de plus le maïs, ou plutôt la pâte du maïs. Cette pâte du maïs qui donne à la fois ce côté bronzé. Vous voyez ce que je veux dire? On a même la couleur entre le maïs jaune, le maïs blanc, le mélange, la cuisson. On a déjà un peu l'impression de la peau lisse et magnifique du précolombien. Et d'ailleurs, le maïs, chez les Mayas, on le surnommait Son Altesse. Son Altesse, ça vous situe un grain qui tout à coup se place au haut comme cela de l'échelle divine. On lui disait Sa Majesté. Cette céréale est bien donnée parfois lieu à d'étranges sacrifices. Toujours chez les Mayas, les semailles, les moissons, tout cela s'accompagnait d'offrandes. Il y avait même des mutilations humaines. On arrachait par exemple le cœur d'un enfant pour l'offrir aux dieux. On se perçait la langue avec des épines d'agave. Et puis on inondait de sang les statues de Chilonel. Ça, c'est chez les Aztèques. Chilonen est belle. C'est la déesse du maïs. Ce dieu du maïs, il est droit. Droit comme si vous l'aviez posé au milieu d'un champ, avec une très très belle coiffe qui glisse, comme les barbes très douces, très fines. Vous avez déjà touché la barbe du maïs, c'est caressant, ça a quelque chose de sensuel. Le grain lui-même peut l'être lorsqu'il est Chilonen, la jeune déesse du maïs blanc. Et vous voyez maintenant cette statue au milieu d'un champ, elle tient de chaque côté cette espèce de phallus à petits grains. Le maïs, elle tient cela comme si vous teniez un sceptre. Elle a une coiffe de papier avec des feuilles sèches de maïs qui coulent de chaque côté. Derrière, il y a des chinampas. C'est le culte des semailles. Vous voyez cet homme qui arrive avec le koa, ce bâton planteur. Tiens, il a aussi la forme d'un sexe. Il le plante doucement dans la terre, il dépose quelques grains et puis, juste en dessus, il reforme une toute petite pyramide de terre. De cette pyramide sacrée sortira dans quelques semaines quelque chose de vert tendre qui va monter jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, qui petit à petit va mûrir, laisser sa barbe sortir. À ce moment, vous arrivez, vous êtes le paysan qui a marché, qui a travaillé, qui s'est occupé de chaque plante, de chaque épi. Vous le brisez simplement, il séchera directement sur pied. Et puis ensuite, vous le mettrez dans des silos étranges, en forme de grande cruche avec un petit chapeau de paille par-dessus. Imaginez-vous. Le premier Espagnol qui vient de débarquer sur la plage grimpe une échelle, regarde à l'intérieur et il crie « J'ai trouvé de l'or !» C'était le premier grain de maïs que l'on voyait en Amérique. C'est certainement à cause de Huitzilopochtli, le colibri de la gauche. Oh, je ne crois pas que ce soit par goût, puisqu'on parle du goût, puisqu'on a envie de sentir ces saveurs étranges. Ben je ne crois pas que ce soit justement à cause de cela que les Aztèques ont arrêté leur migration et ont découvert leur future capitale, Tenochtitlan. Là, dans ces marécages immenses, des eaux très basses, ces eaux qui étaient infestées d'insectes et de toutes sortes de bestioles, des serpents. Bon, ce qui est sûr, c'est que les Aztèques vont apprendre à se nourrir de manière absolument singulière. Parce que, bien sûr, il y a des canards sauvages, il y a quelques lièvres, il y a un ou deux petits rats, il y a des chauves-souris, il y a des singes. Un peu plus loin, il y aurait des pumas, des crotales, quelques iguanes, et en bas, dans la jungle, des jaguars. Mais on dit même que le jaguar a des vertus médicinales. On allait le chercher très loin et on agrémentait ainsi le quotidien. Non, mais on pourrait manger Tiens, des perroquets, des bécasses, des colibris qui étaient farcis avec des petites herbes comme ça grillées sur la braise. Et il y a d'autres amuse-gueules qui nous paraissent aujourd'hui plutôt assez curieux. Je pense à ces larves de fourmis. Ça vous croque comme ça sous la dent. Des œufs de punaise aquatiques, ça c'est pas mal non plus. C'est un peu le caviar de l'époque. Et puis, vous avez ces vers d'agave. L'agave, vous savez, c'est cet énorme cactus qui glisse doucement comme ça avec de larges feuilles. Alors ça, vous cuisez cela dans une marmite de terre avec du piment et de l'achiote, et cette achiote rouge qui servait aussi de colorant. Je parle bien des petits vers d'agave, hein. Ce sont ça ressemble à une sorte de chenille comme ça. Et puis il y avait ces larves de papillons, des papillons de nuit qui faisaient des larves quand même assez grosses, qui étaient frites. Alors ça, c'est encore plus croquant que tout à l'heure. Vous avez les cafards, c'est absolument délicieux si c'est bien préparé. Vous aurez des larves de libellules, ou alors les larves de moustiques, tiens, ça c'est réputé pour soigner la diarrhée des enfants, par exemple. Et ça ne se ramasse qu'à certaines saisons, là. Un peu comme on ramassait aussi la mousse, cette mousse qui recouvre les marais. On en faisait une sorte de fromage blanc, comme cela, que l'on déguste encore dans certains restaurants réputés de Mexico. Attention, il faut le choisir, il n'y en a plus beaucoup. Mais en 1519, quand Hernán Cortés va débarquer au Mexique, il va être accueilli avec tous les honneurs par l'empereur aztèque, je pense à Montezuma II, et qu'il prend d'ailleurs pour le dieu de tout à l'heure. Vous vous rappelez Quetzalcoatl, le serpent à plumes précieuses? Son retour était attendu depuis des siècles. Enfin, on l'attendait tous les 52 ans, l'année 1 roseau, et 1519 était l'année 1 du roseau. C'est un quiproquo qui va contribuer à soumettre tout le Nouveau Monde à cette nouvelle couronne d'Espagne. Et on va être attiré par ces terres que l'on croit couverte d'or. On s'est déjà trompé tout à l'heure en pénétrant dans un simple silo à maïs. Alors il y a d'autres colons qui arrivent à leur tour. C'est une véritable arche de Noé qui va débarquer sur le vieux continent. Imaginez-vous, vous allez mettre des poules, des porcs, des chevaux, des moutons. Il y aura le blé, bien sûr, le riz qui vient d'Orient, les oignons, l'ail, tout cela était inconnu. Les Espagnols viennent prendre l'or et l'argent et eux, ils vont découvrir autre chose. La tomate, le maïs, le haricot, l'avocat, l'amarante, et puis ils se laissent séduire. Ah ça, je vous assure, quand on est un peu suisse comme ça, ou belge, c'est de la séduction absolue. Le cacao et la vanille, et puis le piment aussi, tiens, il faut relever un peu la chose. Alors tout cela va créer une sorte de métissage de ces ressources des deux mondes. Les hommes aussi suivent l'exemple de Cortés. Prenez par exemple sa compagne indienne, la fameuse Malinche, qui l'a tellement aidée. Mais chacun va s'y mettre, parce que la colonisation va passer également par l'évangélisation, bien sûr. L'Église va mettre son petit grain de sel là-dedans, dans ces espèces d'échanges gastronomiques. On doit d'ailleurs énormément de recettes à ceux qui ont le temps, c'est-à-dire ces nonnes qui sont cloîtrées dans les couvents. Là, je pense au mole, je pense au les chiles en nogada, ou alors le rompope avec ce goût d'œuf et ce petit rien de cognac à l'intérieur. Alors tout ça, c'est un peu une affaire de femme, bien sûr, lorsqu'on parle de la cuisine, et puis immédiatement on pense à des films qui nous rappellent l'idée du chocolat. Enfin, vous me voyez venir? Ce sont les périodes qui vont précéder l'indépendance, qui vont être marquées par des périodes extrêmement difficiles. Alors les femmes, elles sont là pour improviser. J'imagine par exemple qu'avec une tortilla, elles vont faire des plats simples, des plats peut-être consistants pour nourrir par exemple les soldats. Les enchiladas, elles sont nées à ce moment-là. Elles étaient farcies de viande ou de fromage. C'est simplement une crêpe de maïs pliée en deux. Et vous avez une femme qui est extrêmement célèbre, qui va influencer toute la gastronomie mexicaine. On parlait de Belgique, et bien sûr c'est l'impératrice Charlotte, l'épouse de Maximilien d'Autriche, qui a un règne bien éphémère, puisque on est à peine là quelques années, entre 1864 et 1867. Alors elle est peut-être bouleversée. On ne sait pas si elle l'a su vraiment par l'exécution de son mari, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette malheureuse Charlotte va sombrer dans la folie, puisqu'elle va partir par le Yucatan pour essayer d'aider son mari. Elle ira même jusqu'à Rome voir le pape. Mais elle a légué au Mexique quelque chose d'assez spécial. Vous devinez la chose lorsqu'on est impératrice et qu'on est un peu autrichienne? La pâtisserie. Le côté viennois. Et puis, tout ça, c'était dû à quelqu'un, vous voyez, comme quoi il suffit d'un personnage. C'était son fabuleux cuisinier hongrois qui l'a accompagné. Comme ça, en quelques années, elle va transformer la gastronomie. Et aujourd'hui, il y a même un cercle féminin de l'art culinaire. Ça, je trouve extraordinaire. Depuis 1981, on essaye de promouvoir la gastronomie mexicaine. On a même réhabilité des recettes qui étaient complètement oubliées en favorisant un côté un peu inventif, intuitif de cette cuisine à base d'ingrédients insolites. Je pense par exemple le colorine. Le colorine, c'est une fleur rouge qui pousse sur des arbres. On est en train de remettre en valeur, par exemple, le yuca. Le yuca, on connaît tous le yuca, mais en faire de la cuisine, c'est autre chose. Ou alors le cuitlacoche. Le cuitlacoche, qui est une sorte de mousse, on en parlera tout à l'heure, une sorte de parasite du maïs, qui a un côté bleu marine assez étrange. Alors, quand on imagine les différentes régions du Mexique et qu'on passe à table, je passerai peut-être un peu rapidement sur le nord, où l'on mange plutôt de la viande de bœuf qui est simplement salée et séchée au soleil, c'est la cecina. Ou alors, on peut faire des tortillas de blé avec une sorte de remplacement du maïs, et là, on va mettre de la viande hachée. Ou alors, on va faire des burritos. Ça, j'aime bien les tisanes. Les tisanes, c'est naturellement une terre d'élevage, le nord, où il y a les vaqueros, les cowboys. Et là, naturellement, on va utiliser tous les produits laitiers. Le rocoquet, par exemple, c'est une crème épaisse qui est servie en amuse-gueule. Ou alors, pourquoi pas du fameux fromage chihuahua, le queso menonita. Quand on parle des ménonites, bien sûr, c'est cette communauté qui a vraiment pris l'habitude d'élever d'abord les vaches et puis de faire du fromage. Ils ont appris pratiquement au Mexique à manger du fromage. Alors, quand vous mettez cela dans une quesadilla avec quelques piments et que vous imaginez le goût nouveau avec le blé, ça devient un plat déjà beaucoup plus sophistiqué. Ou alors un piment qui est bien farci avec ce même fromage qui coule comme cela, très très agréable. Et dans l'état de Coahuila, par exemple, on va trouver des tortillas qui sont farcies de viande, tout comme les tortillas de maïs. C'est un peu valable pour tous les états du nord, mais dans les plaines du Nouveau León, les vaches, elles sont remplacées par des chèvres et des cabris. Alors moi, je vois très bien là, vous imaginez la braise. Cette odeur, comme ça, on est en train de préparer un cabrito al pastor, lorsque c'est à la broche, comme ça. Ou alors au four, c'est pas mal non plus. Et vous allez servir ça avec des frijoles borrachos. Ce sont des haricots qui sont rendus ivres, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on les cuit avec un soupçon de vin de Basse-Californie. C'est pas mauvais non plus. Alors les haricots rouges, puisque je les évoque, ça accompagne pratiquement tous les plats. Et on les trouve à côté de la viande hachée, du piment, de la crème fraîche. Et là, vous allez pouvoir faire, tout à fait au nord, le chili con carne. Mais attention, c'est une spécialité texane qui est partie en fait du Mexique, mais qui était beaucoup plus raffinée lorsqu'on l'imagine chez les vaqueros. Et tiens, il y a par exemple, si je me mets dans le centre-ouest du Mexique, on parle souvent de la région du Jalisco ou du Michoacán. Eh bien là, lorsqu'on travaille beaucoup, on va devoir avaler rapidement un caldo. Le caldo, c'est le pot-au-feu. C'est un pot-au-feu très complet. Ça, c'est d'influence espagnole, mais c'est épicé à la mexicaine. Et puis, vous aurez les birria. Les birria, c'est de la viande de mouton qu'on a marinée dans une épaisse sauce pimentée. Au départ, ça masquait peut-être le manque de fraîcheur, pourquoi pas. Et c'est ensuite cuit tout simplement à l'étouffée. Et puis, l'enchilada du mineur. Alors là, elle est différente. Elle est farcie de poulet avec un peu de pommes de terre et des carottes. Vous voyez qu'il y a un mélange entre cette Europe et cette Amérique. Et dans le Guanajuato, lorsque vous avez beaucoup travaillé dans les mines d'argent, lorsque vous continuez, ça s'exploite encore aujourd'hui, à y travailler, eh bien, obligatoirement, juste là, une fois que vous aurez terminé votre... ils sortent tout noirs, hein, ils ont une allure extraordinaire. Puis ces ascenseurs, et puis ces chariots qui roulent, et puis cette ambiance, et juste là à côté, vous entendez simplement deux portes qui grincent chaque fois qu'on les pousse un peu violemment parce qu'on est très macho et très musclé. Et à l'intérieur, eh bien, il y a une odeur particulière. Une odeur entre la fumée et un alcool saumâtre. Ça pourrait être du pulque si vous étiez dans le sud, mais là, bien sûr, c'est le tequila. Le tequila qui coule à flot. Et quand on pense à cette nourriture populaire qui est toujours d'actualité, j'aurais envie tout à coup de me transformer en aristocrate. Et bien là, du côté de l'ouest, du côté de Guadalajara, qui est la deuxième ville du pays, et bien là, je mangerais plutôt du piment mexicain avec du riz et du chorizo à la façon espagnole, avec quelques grillades. Au Michoacán, c'est très fertile, il y a une infinie variété de recettes à base de maïs, mais j'aime beaucoup les tamales. Les tamales, c'est une sorte de maïs qui est transformé en polenta comme cela, extrêmement délicat. Et le clergé du Michoacán avait justement inventé le huichepos. Ce sont des tamales faits avec des épis de maïs tendres. On y mettait du sucre, de la cannelle et surtout de la carreta. C'est une confiture de lait, je ne vous dis pas. Même nos caramels mous, carreta, c'est pas mal.
Oh,
Avez-vous déjà offert une dinde à un évêque? Eh bien, dans une ville qui a été fondée par les Espagnols au XVIe siècle, c'est un peu l'escale des voyageurs, des soldats qui partaient du port de Veracruz, là dans l'arrondi du Golfe, et qui montaient jusqu'à 2000 mètres à Mexico. On s'arrêtait toujours à Puebla. Puebla, c'est peut-être le berceau le plus incroyable de la gastronomie mexicaine. C'est cet échange entre les deux mondes. Puebla, c'est quelque chose qui a été élaboré. Je parle bien sûr de la ville, mais je pourrais parler aussi de la cuisine. Là, vous êtes cachés dans des couvents. Vous avez un côté extrêmement calme, une sorte de quiétude. Vous entendez les prières, vous avez une certaine aisance matérielle. Et les nonnes, elles ont tout le temps, tout le loisir de peaufiner des recettes incroyables. Je pense à ce mole poblano. Je l'ai cité tout à l'heure, mais je ne vous ai pas donné la recette. Imaginez cette mère supérieure, Andrea, du couvent de Santa Rosa. Et elle avait l'obligation de préparer en fait un repas tout à fait imprévu à l'évêque Don Manuel. Alors, elle va s'inspirer d'une vieille recette maya et qu'elle agrémente de tous les ingrédients qu'elle peut trouver. Alors, je mettrai par exemple, elle va trouver des piments, elle va mettre un peu de sésame, de l'anis, des raisins secs, girofle, cannelle. Et elle avait même un rien de grain de cacao, ou peut-être une tablette de chocolat, enfin, mais ces tablettes à la façon indienne, où le cacao est simplement broyé et puis mélangé, il a encore ce côté très amer, comme cela. Et elle, si c'était du chocolat pour les sœurs, il y avait peut-être un rien de sucre. Vous savez, il y a un petit côté goloso, comme on dit en espagnol, cette façon de faire fondre quotidiennement ce chocolat directement dans un peu d'eau, et puis plus tard, on s'habituera peut-être au lait. Mais ça, c'est déjà la mode espagnole. Quand on connaît l'appétit que peut avoir un prélat, on va choisir naturellement dans la basse-cour une dinde bien grasse. Et on va encore prendre le bouillon qui va enrichir la sauce. Et c'est un plat qui va avoir un tel succès qu'en guise de remerciement, eh bien, l'évêque va ordonner la construction d'une cuisine. Alors ces cuisines de Puebla, elles sont tapissées d'azulejos. Il y a des céramiques bleues et blanches partout. C'est encore très prisé aujourd'hui. Bah, c'est un véritable festin qu'il a fait là. Et le mole poblano, il faut choisir son restaurant, il faut choisir l'endroit, il faut le déguster. Ce goût à la fois d'amande, d'anis, de raisin sec, de girofle, de cannelle, avec ce rien de cacao qui donne un peu d'amertume, et puis tous ces piments. C'est une sauce brune, très épaisse. Tiens, quelques petites graines de sésame en surface, sur une cuisse ou sur une pechuga, c'est à vous de choisir, l'aile ou la cuisse, ou éventuellement le filet. Là, c'est vraiment un des plats remarquables. Et puis, vous avez une autre recette traditionnelle, à mon avis, comme on en trouve peu ailleurs dans le continent. Ce sont des religieuses, toujours, celles de Saint-Augustine. Elles ont voulu fêter, en fait, l'anniversaire de l'indépendance du Mexique. Bah oui, ça se situe en plein milieu du mois de septembre. Alors, c'est le moment où les noyers, qui ne sont pas mexicains, produisent de grosses noix, un peu comme les noix de Grenoble. Elles vont inventer le chile en nogada. Et puis, elles vont le créer avec des sauces qui vont former un peu la couleur du drapeau national, c'est-à-dire le vert, le blanc et le rouge. Alors le vert, c'est une sauce, bien sûr, le blanc, c'est une crème, le rouge, ce sont des petits grains de grenade qu'on va déposer par-dessus. Alors le Mexique, eh bien, il doit à ses femmes des friandises incroyables. Je pense au ron popé, je l'ai juste situé tout à l'heure, c'est une liqueur à base d'œufs et de rhum. Un goût absolument délicieux. Et puis le ramoncillo de leche y azúcar. Ah ben, pour revenir au plat principal, c'est sûr que le chile en nogada, c'est un piment qui est farci, donc avec les crèmes et les sauces que je mettais dessus. Alors pour dessert, vous aurez ces bouchées au lait au sucre, ramoncillo de leche y azúcar. Et puis pourquoi pas le dulce de nopal, qui est un gâteau de cactus qui est parfumé à l'anis et qui est consommé uniquement pendant la période du carême. Ou alors les chalupas, ça c'est encore délicieux. Ce sont des petits pâtés de maïs qui sont dorés au beurre. Ou alors des dulces de camote. C'est une sorte de confit à base de patates douces. Vous commencez à saliver? Eh bien, imaginez que dans le sud, dans la région de Oaxaca, qui est beaucoup plus indienne, là, c'est une des régions les plus riches et les plus variées en matière de gastronomie. Vous êtes vraiment dans le fond de cette extraordinaire corne d'abondance. Et là, il y a les descendants de tous les Mixtecs, des Apothèques. Il y a une quinzaine d'autres ethnies indiennes aux alentours. Et le marché journalier de la ville de Oaxaca n'a pas changé depuis 5 siècles. Il a changé de lieu, mais pas les produits, bien sûr. Et là, on est étourdi par la débauche de couleurs et surtout par le côté odorant de toutes ces denrées. Et le marché du samedi était absolument spectaculaire. uniquement à Oaxaca, il y a plus de 7 sauces, les fameux moles différents. Vous les voyez comme ça, mais en montagne, carrément. C'est comment vous décrire cela? C'est une sorte de pâte épaisse, mais qui peut être ensuite dissoute avec le caldo, avec un peu de bouillon, et qui donnera justement ce côté crémeux de tout à l'heure. Alors, il faut une bonne trentaine d'ingrédients pour faire un bon mole. Le plus fameux, qu'on appelle le mole negro, il est noir, bien sûr. Ça demande 3 sortes de piments, il faut du cacao, des noix, des amandes. Et puis, ce chocolat, eh bien, on peut justement l'utiliser pour parfumer, par exemple, l'atoll. L'atollé, c'est une épaisse boisson à base de farine de maïs. Et là, tout à coup, on le parfume avec ce cacao. C'est un breuvage qui a un côté presque, pour nous, je dirais, on ne peut pas en prendre beaucoup, en tout cas. Mais par contre, alors le mezcal, quand ça coule au moment des fêtes, ça devient enivrant, puisque ça a pratiquement 40 degrés. Ça accompagne à merveille les quesadillas de quesillo, qui sont farcies du fromage traditionnel, qui est un peu différent. C'est du chewing-gum en longue bande, comme ça. On a l'impression qu'on en fait carrément une pelote de laine, grosseur supplémentaire, si vous avez beaucoup de tours avec ce fromage qu'on défait petit à petit. Et puis, il y a des douceurs fantastiques, des sorbets aux figues de Barbarie, des meringues, des petits pains sucrés, très moelleux, là je pense bien sûr au pain dulce. Alors le turon qui est une sorte de nougat. Et puis il y a, alors quand on descend plus au sud, ce parfum de Tehuantepec, les Caraïbes arrivent, et il y a bien sûr encore le Pacifique. Et là vous avez ces premières civilisations indigènes qui sont nées sur ce territoire bien avant l'arrivée de Cortés. Vous avez par exemple la cuisine de Veracruz qui a déjà ce côté caraïbe avec des influences espagnoles. Je pense naturellement aussi aux esclaves noirs. Et là des poissons, des fruits de mer, ça vous l'avez déjà senti. Le fameux pescado à la Veracruzana. Et c'est accommodé avec une sauce à la tomate, avec du piment, avec des oignons, avec de l'ail. Une soupe de poisson avec du riz à la tombada, c'est une sorte de paella épicée qui reflète encore une fois de plus ce savoureux mariage de nos deux mondes. Et puis quand vous glissez chez les Mayas, surtout dans les chapas, vous avez cette petite graine qui était utilisée par les Mayas pour préparer une boisson rafraîchissante. Oui, c'est là, dans ces jungles un peu inhospitalières du Chiapas, que leurs descendants, les Indiens Tzotzil, les Tzeltal ou les Lacandons qui vivent dans la jungle, ces chasseurs vont capturer encore leur gibier, leurs singes, leurs dindons, leurs cochons sauvages, et à l'aide d'un arc et de flèches avec une petite pointe de silex ou un fusil, comme ils le font plus particulièrement aujourd'hui. Et puis tout à coup, ils tombent sur cet arbre avec ses graines étranges, c'est bien sûr le cacao. Et vous allez retrouver du côté de San Cristobal, du côté de cette jungle, des ruines mayas, et parmi ces ruines, des ocelots, des jaguars, des chevreuils, des sangliers, des faisans. Il y a une spécialité extraordinaire au Yucatan, c'est le pibil, c'est une viande de porcelet, on l'appelle la cochinita, c'est un tout petit porc, et vous la préparez ensuite avec... Vous pouvez le faire aussi avec du poulet d'ailleurs. Vous enduisez tout cela avec une pâte d'achiote. L'achiote en français, je crois que c'est le roucou. Le roucou, c'est une sorte de grosse châtaigne. À l'intérieur, il y a vraiment cette espèce de crème rouge qui a un goût un peu de paprika. C'est un plat tout à fait extraordinaire. Et puis, bien sûr, quand vous imaginez ce mélange où vous avez la peau, le porc extrêmement doucereux, comme ça, avec d'abord le roucou, vous allez y remettre un peu de cannelle, quelques arômes, et puis vous terminez avec un jus d'orange acide. Ça, c'est vraiment la façon de cuire tout cela à l'étouffée dans une feuille de bananier. Oui, on aime beaucoup ce côté sucré-salé au Yucatan. Je pense au tamal de porc à la cannelle, ou alors ce poulet à la banane, ou alors on utilise de l'épazote. L'épazote, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je crois que c'est de la chénopode. C'est une herbe qui n'existe qu'ici et du côté oriental. C'est une sorte d'herbe aromatique qui normalement est une simple mauvaise herbe, mais qui donne un goût absolument incroyable aux aliments. Et puis, naturellement, dans cette région, on a quelque chose que tout étranger apprécie beaucoup, c'est la sopa de lima. La sopa de lima, c'est une soupe avec un rien de citron, mais le citron local qui a un goût bien particulier. Et vous aurez des tacos avec des œufs durs, avec des pépins de courge, des salades de cactus. Oui, on cuit les feuilles de cactus, on les bouillit plus exactement, on les assaisonne avec du piment et de la coriandre. Et tout cela, eh bien, vous l'arrosez avec une bière brune locale. Pourquoi pas une cerveza negra de León, vous serez servi à table, c'est sympathique. À Mexico, J'en ai déjà un peu parlé. Et naturellement, c'est un endroit où on pourrait dire qu'il y a pratiquement 20 millions de grignoteurs. Et lorsqu'on rentre dans une taqueria, on peut tout imposer, on peut tout choisir. Mexico, c'est surtout des plats curieux. J'ai envie juste pour terminer de vous placer dans la haute cuisine qui est élaborée par des grands chefs de fonda ou d'osterias, qui sont fréquentés par les hommes d'affaires à midi ou par des gourmets le soir. Alors, ces restaurants ont remis au goût du jour des recettes complètement oubliées. Par exemple, des choses qui sont inventives, qui sont parfumées. Sur leur carte, vous aurez par exemple ce mélange raffiné que j'ai rappelé entre le Mexique et l'Europe. Il y aura très peu de tortillas, mais des ingrédients très recherchés. Le yuca, les fleurs de courgette, et peut-être justement le cuitlacoche. C'est un champignon parasite qui vit sur les pies du maïs. Oui, c'est un véritable parasite. On le réduit en crème et on enfourne des crêpes. C'est une crêpe qui est carrément devenue bleu marine, voire noire, à cause de la couleur de ce bubon étrange qui pousse sur le maïs. Ça fait peur quand on le voit à l'origine, mais lorsqu'il glisse sur la langue et qu'il descend dans la gorge, avec un rien de suite dans le repas, je veux dire par là, imaginons que on pourrait vous servir, pourquoi pas, un homard avec de la mangue, ou simplement vous mettriez un peu de coriandre sur de la purée, ou alors des beignets croustillants. Et puis la carte des vins a beaucoup changé au Mexique. Elle devient extrêmement fournie, mais j'ai envie de vous faire pousser une porte, celle de ma maison. Lorsque vous êtes en casa, c'est l'endroit le plus authentique. Et ce sont les femmes qui vont s'occuper de cette cuisine. Elles vont tous les jours au marché, là, juste au coin de la rue. Et elles arrivent avec des produits d'une fraîcheur incroyable. Et à la Merced, le plus grand marché du monde, peut-être, eh bien là, c'est un peu comme si vous étiez à Mexico, Tenochtitlan. C'est ce qui a émerveillé les Espagnols. C'est ce qui a émerveillé Diego Rivera avec les peintures que j'évoquais tout au début. Eh bien, c'est là que les marchands vont vous proposer, toujours frais, d'une façon artistique au point de vue présentation. Vous avez une femme qui épluche des gros oignons blancs. Elle ne pleure pas parce qu'elle a l'habitude de le faire. Elle vous présente des ananas, elle va vous montrer des tranches, elle vous les fait goûter. Juteuse à souhait, vous aurez la carreta, ce dessert préféré de l'impératrice Charlotte. Des montagnes de beurre, des marchands qui arrivent avec des choses du Yucatan, des feuilles de bananier, simplement pour emballer votre nourriture au moment de la cuire. Cette pâte d'achoté rouge qui permet de faire le pibil, des piments qui sont là, frais, il y a un côté luisant, ils peuvent être secs ou alors tout ridés, bien sûr, et ils ont toutes les tailles, toutes les nuances, avec des odeurs incroyables, avec des portefeuilles qui sont dissimulés, carrément cachés derrière une carcasse de bœuf, avec leur panier qui déborde de tomates, avec un vernis absolument éclatant, et vous allez retrouver ici, accrochés un peu partout, ces produits qui franchement nous donnent envie. Donne envie de goûter. Vous aurez un marchandage, bien sûr, il est là pour terminer le côté traditionnel. Et vous allez repasser tout à l'heure devant un supermarché, vous vous direz non, les pesos que je viens de dépenser, comme on dit, les pesos que je vais te coûter, Dieu te les rendra au centuple. Passez au marché, faites la cuisine, rentrez à la maison, l'odeur commence, le repas, lui, est quelque chose à déguster.